Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité de jeudi. Aujourd'hui, on va retrouver Antonin Sabot, qui est déjà venu dans nos studios. Là, il a sorti un nouveau roman, Le Grand Incendie, aux Presses de la Cité. Donc, on va le retrouver dans quelques instants.
All the shark has pretty teeth, dear. And he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear. And he keeps it out of sight.
Voilà, donc on retrouve tout de suite Antonin Sabot. Antonin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue. Alors, on va parler bien sûr de ton dernier roman, Le Grand Incendie. Avant, peut-être un petit peu rappeler ton parcours, parce que toi, tu as un parcours un peu atypique quand même.
Ouais.
Tu étais journaliste au Monde.
Ouais, c'est ça, pendant une dizaine d'années. Ouais,
ouais, ce qui est quand même pas rien. Parce que le Monde, c'est quand même un grand journal, hein, c'est vrai.
Ouais, il paraît.
Je sais pas s'il paraît, mais c'est à peu près sûr, non?
Ouais, non, c'était une belle maison, ouais.
Ouais, c'est une belle maison. Et alors après, tu as décidé d'arrêter comme ça?
C'est ça, voilà, j'écrivais, je faisais beaucoup de reportages, c'était bien, j'aimais ça, hein, mais j'en faisais un peu de moins en moins, et puis j'avais envie d'écrire autre chose. Donc voilà, je suis passé à la fiction, et c'est pour ça qu'on s'est vus il y a déjà un peu plus de 2 ans, je crois, hein, pour mon premier roman.
Oui, peut-être, ouais. Ouais, ça passe vite, hein, le temps.
C'est ça.
Et donc, tu t'es installé en Haute-Loire.
Et voilà, je suis originaire de Saint-Étienne, mais mon père vient de Monistrol. Donc je connaissais bien la Haute-Loire, et en fait, je suis revenu pour des reportages pour Le Monde, dans le village où j'avais grandi en partie, quoi, pendant les vacances, etc. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est là que j'ai envie d'habiter, quoi. Paris, j'en avais un peu assez, on va dire, ouais, voilà, ouais, j'avais fait le tour. Et voilà, donc je suis revenu, en fait, m'installer ici, ouais.
Et là, tu continues dans le... Non.
Et donc, je continue à écrire
uniquement de
la fiction, ouais.
De la fiction, d'accord.
Voilà, c'est ça.
Donc, alors, l'ancien, c'était l'autre...
Nous sommes les Chardons.
Ah oui, Nous sommes les Chardons, là, c'est ça. Oui, j'ai regardé tout à l'heure, Nous sommes les Chardons. Mais là, on va voir que c'est totalement différent. Hein.
Il y a des points de convergence, mais ouais, non, ouais. Le point de départ est différent. Ouais.
Oui, tu es parti un petit peu, je dirais, dans un délire, non? C'est... Enfin, je sais pas.
Bah, malheureusement, pas tant que ça. Hein. On va le voir, c'est assez réaliste. Mais en tout cas, ouais, c'est-à-dire que le premier parlait vraiment de la nature et de la vie. Alors, c'était pas dit que c'était ici, mais ça pouvait ressembler en tout cas. Là, voilà, là on part aux quatre coins du monde.
Là, tu vas nous balader, hein, tu vas nous balader justement parce que donc, ça démarre en Californie, en fait, ton roman.
C'est ça.
Hein, puisque, alors, on explique un peu, Virginia, éleveuse de chou, rescapée du premier méga-feu, avoir rasé une ville entière, celle de Paradise, 15 ans plus tôt, est à la recherche de son père dans un état aujourd'hui ravagé. Alors, tu pars de la Californie, mais on va voir que tu vas nous emmener en Sibérie, tu vas nous emmener un petit peu partout. Hein.
C'est ça.
L'idée est venue comment?
Alors, le point de départ, c'est assez intéressant parce que c'est en fait le constat que les méga-feux sont de plus en plus présents aujourd'hui sur la planète. Et la France s'en est rendu compte cet été, hein, avec les incendies qui ont eu lieu en Gironde, hein, qui ont brûlé des dizaines de milliers d'hectares.
Oui.
Cet été, il y a 70 000 hectares quasiment qui ont brûlé dans toute la France, dont 26 000 en Gironde, et dans les Landes, pardon, aussi. Et donc voilà, en fait c'est un phénomène qui se renforce depuis une vingtaine d'années. Alors en France, on le voit pas encore énormément, mais voilà, principalement en Californie, en Australie, c'est un phénomène qui s'amplifie et voilà, qui sont des feux incroyables, quoi, beaucoup plus grands que ce qu'on peut voir habituellement. C'est-à-dire que le feu, c'est quelque chose de naturel. Il faut pas en avoir peur comme ça juste de son existence. Les feux dans les forêts, les gens d'ici le savent, ça arrive. Mais là, on est devant des incendies qui sont beaucoup, beaucoup plus grands, qui brûlent des dizaines de milliers d'hectares, voire des centaines de milliers, voire, pour les incendies en Sibérie, des millions d'hectares. Et donc, c'est des incendies qui sont d'une puissance ravageuse, qu'on n'arrive pas à éteindre, qui ravagent beaucoup plus la végétation, parce que les arbres... Il y a beaucoup d'arbres qui savent résister à des incendies, mais là, les incendies sont tellement forts que même des arbres un peu habitués aux flammes sont détruits. Et donc, en fait, ce truc-là, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a tellement choqué, on va dire, tellement... Je me suis dit, c'est pas possible, il faut en faire un roman. Et voilà, et donc c'est là le point de départ.
Oui, donc ça s'appelle le grand incendie, hein. Alors, bon, tu es parti de Californie, là tu vas aller Virginia, là, qui
Ouais.
va à la recherche de son père. Alors, il est au cœur de la Sibérie, il est parti en Sibérie, lui, mais...
Alors, ça c'est l'autre personnage, ouais.
Ah, c'est un autre
C'est
personnage.
Yanov, ouais.
D'accord, ouais, c'est Yanov.
Ouais.
Là, oui, parce que tu fais rentrer un autre personnage
En
dans
fait,
ta...
voilà, ce roman-là, voilà, le premier roman, on suivait un seul
Ouais,
personnage qui,
ouais.
lui aussi, par hasard, d'ailleurs, cherchait un peu son père,
Ouais,
cherchait les traces de son père. Son père était mort,
d'accord.
mais il en cherchait les traces.
Ouais.
Donc là, la première personnage en Californie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a été victime du premier, d'un des, alors c'est pas le premier méga feu qui a eu lieu aux États-Unis, hein, mais
Oui.
c'est le premier qui a rasé toute une ville.
Voilà, c'est
Donc
ça.
ça,
Oui,
moi je m'en
ça.
souviens, hein, c'était en 2018.
Ouais.
Ça m'avait marqué, je me
Ça
rappelle à
marque quand
l'époque,
même.
ouais, je me
Ouais.
rappelle à l'époque d'avoir entendu cette info et d'avoir été assez bouleversé par ça.
Mmh.
Et en fait, donc elle a vécu ça et évidemment ça a disloqué sa famille. Elle continue à vivre avec sa mère et en fait son père part, il a une sorte de stress post-traumatique quoi. Donc il est parti et en fait les incendies continuent évidemment année après année et à un moment elle se dit ok c'est pas possible il faut que j'aille voir ce qu'est devenu mon père. Donc elle va partir et c'est la raison pour laquelle elle retourne en Californie et elle se rend compte voilà que ce qu'elle a vécu elle dans cette ville qui a été rasée et alors c'est malheureusement ironique, mais cette ville s'appelle Paradise,
Oui,
donc ça veut dire le paradis
oui.
en anglais, et
Ouais.
évidemment, bah voilà, que ça a été un enfer. Donc elle se rend compte que cet enfer s'est démultiplié, et que donc le roman se passe pas aujourd'hui, il se passe dans un futur, mais un futur proche, hein,
Oui.
probablement. Elle se rend compte, voilà, que son enfer personnel est devenu celui de vraiment de plein de
Beaucoup
monde,
de
quoi.
gens.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, elle se rend compte, voilà, que de l'ampleur du désastre, en fait. Et elle va chercher, voilà, peut-être un peu d'espoir aussi là-dedans. Comment on peut retrouver un peu d'espoir dans ce truc-là.
Et tu l'emmènes en Sibérie quand même?
Alors c'est un autre personnage
C'est
qui,
ton deuxième
ouais,
personnage
voilà. Donc ce roman-là,
qui a
c'est un
vécu.
roman choral. Parce qu'en fait, l'idée,
Ouais.
c'est qu'en fait, les chercheurs de la NASA pensent qu'un jour, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les saisons du feu, il y a une saison du feu dans le nord,
Ouais.
voilà, qui commence en juin-juillet, qui termine en septembre-octobre. Il y a une saison du feu dans l'hémisphère sud qui est plutôt autour de décembre et qui termine à notre printemps à nous, que ces saisons s'allongent. Et que donc probablement qu'un jour elles vont se rejoindre. Que comme elles
D'accord.
s'allongent dans le sud, elles s'allongent dans le nord, il y a un moment où la saison des feux, ben en fait,
Sera toute l'année.
voilà.
Ouais.
Et donc ce jour-là, il y aura des incendies qui brûleront en même temps à plusieurs endroits de la planète. Et donc ça aura évidemment des conséquences plus grave parce que ça dégage beaucoup de CO2, ça dégage des particules, ça dégage des cendres, etc. Et c'est un peu comme quand il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez du volcan en Islande
Oui, bien
qui
sûr,
avait
ça
envoyé
avait
tellement de
arrêté.
cendres, là ça avait arrêté voilà, le trafic
Le
aérien
trafic aérien, ouais.
et ça a fait beaucoup de pollution.
Ouais.
Et en fait, probablement qu'il y aura des choses de cet ordre-là dans un futur proche.
D'accord.
Donc voilà, donc il fallait pour raconter cette histoire et ce moment-là, en fait, plusieurs personnages à plusieurs endroits du
Voilà, c'est pour
globe.
ça,
Voilà,
d'accord.
et
Ouais.
qui vivent ce même moment. Et voilà, l'intérêt c'était ça, c'était de dire des gens que tout sépare. Parce que voilà, cette éleveuse de chevaux qui vit au
Ouais.
Midwest, qui vient de Californie, probablement non pas aisée, mais en tout cas,
Oui, ça va
elle a
quoi.
des conditions de vie correctes.
Ouais.
À côté, un ancien soldat russe
Oui.
qui a émigré en Sibérie. Alors, la guerre qu'il a faite, c'est l'Ingouchie, mais ça pourrait être aujourd'hui l'Ukraine, par exemple. Il en
Oui.
est lui-même complètement traumatisé de ce qu'il a vu, de ce qu'il a dû faire, etc. C'est un petit peu abordé dans le livre. Et le troisième personnage, qui est une jeune femme kurde qui doit lutter contre des terroristes qui pratiquent la politique de la terre
Ouais.
brûlée, et ben, ces trois personnages-là qui ont un vécu évidemment très différent. Et ben, comment ils réagissent à cet événement-là qui est un événement planétaire? Et en fait, ce qui m'intéressait de montrer, c'est que, à quelques différences près, ils réagissent un peu pareil. Et
D'accord.
ils ont les mêmes sentiments parce qu'ils sont tous humains, quoi. Et donc, voilà, ils vont fuir et on va découvrir leur histoire petit à petit, quoi.
Ouais, sauf qu'ils sont pas quand même dans les mêmes conditions de vie, parce que vivre en Sibérie, vivre en Californie, c'est pas tout à fait pareil, hein. Donc, la vie est beaucoup plus dure en Sibérie, hein, déjà de par le climat.
Exactement,
Ouais.
exactement. Mais en même temps, voilà, est-ce que...
Oui, justement, mais il y a ce décalage. Mais quand même, il y a
Voilà.
des incendies.
Moi, ce que j'interrogeais déjà dans mon premier roman, Nous sommes les Chardons, c'est... ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'homme à la nature. Et à partir de ça, je pense qu'on peut faire une expérience commune qui est ou qui serait, si on y travaillait, de nous rapprocher un peu de la nature et de nous rapprocher un peu de ce truc-là. Et ça, je pense que c'est comme d'être père, c'est comme d'être parent ou d'avoir des amis. Et ben, qu'on soit en Californie ou qu'on soit en Sibérie ou qu'on soit kurde, et ben en fait, c'est une expérience commune. Et donc voilà, donc je pense qu'on est un peu tous, même si on a, évidemment qu'on n'a pas les mêmes conditions de vie, mais on est dans le même bateau. Et quand la catastrophe arrive, en fait, c'est exactement ça qui se passe. Est-ce qu'on se dit qu'on est dans le même bateau et qu'il faut un peu qu'on s'entraide, même si c'est qu'un radeau de sauvetage, même si c'est qu'une barque un peu malmenée par les flots. Est-ce qu'il faut pas quand même que là on mette de côté nos différences et qu'on avance ensemble?
Oui, donc au travers de ces trois personnages, tu vas les envoyer dans le futur un peu. Tu vas essayer d'imaginer ce qui va se passer, quoi. Puis,
c'est ça, voilà.
Enfin, on va les découvrir, en fait.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, donc le roman se passe. Alors, c'est pas exactement dit, mais ça se passe dans les années 2030, quoi. Au moment où justement les incendies seront malheureusement probablement encore plus gros que ceux qu'on a connus actuellement. Et voilà, l'idée de départ aussi, c'était de dire le feu met en mouvement les choses. C'est-à-dire que le feu, ça a évidemment un caractère destructeur et terrible, hein, mais il transforme des éléments solides en éléments qui se dispersent. Il réduit en cendres un arbre et donc les cendres peuvent s'envoler. Et en fait, l'idée, moi j'aime beaucoup faire des métaphores par rapport à la nature et de chercher en quoi il peut y avoir une correspondance entre ce que nous on vit et ce que vit la nature. Et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve comme communauté, en fait, d'expérience entre un oiseau, un homme, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager? Et je me dis, voilà, le feu, il détruit un arbre et il le disperse. Et en fait, il fait la même chose avec les communautés humaines. C'est-à-dire que quand il rase la ville de Paradise, mais quand il détruit les champs du Kurdistan et que le village se retrouve sans plus rien pour subsister, quand il détruit la maison dans la forêt de notre Russe, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il disperse ces gens comme si c'était des cendres, comme si les gens devenaient des cendres elles-mêmes et qu'elles se retrouvaient poussées par le vent, et donc ensuite on verra où elles atterrissent, quoi, ces cendres.
Ouais, c'est ça un peu le but du roman, c'est savoir où elles vont atterrir, les trois là. Alors parfois on dit dans des reportages que le feu, des fois ça du bien parce qu'on dit que ça régénère la nature.
Ouais,
parfois.
C'est vrai. Mais c'est vrai, il y a des, j'en parle d'ailleurs, hein, il y a des plantes qu'on dit pyrophiles qui aiment le feu parce qu'elles résistent au feu et ça leur donne un avantage concurrentiel, c'est-à-dire que enfin c'est la théorie de l'évolution, hein, c'est-à-dire que une plante qui résiste aux flammes, si les plantes autour la gênent et qu'elle l'empêche de grandir, le jour où il y a un incendie, ces plantes-là, elles sont détruites et elle, hop, elle se retrouve, elle a la lumière et elle peut revivre. Donc ça c'est un peu la lueur d'espoir, hein, que moi je reprends, effectivement je reprends cette métaphore dans le livre, donc ça existe. Voilà, maintenant ce à quoi on assiste, les feux auxquels on assiste aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont tellement violents que même ces plantes-là, elles ont du mal à résister.
Ouais,
complètement. Ouais. C'est ça qui change aujourd'hui. Hein.
Et alors, on a dit que c'était les gars, les ingénieurs de la NASA qui prédisaient que on va aller de plus en plus. Et on sait pourquoi. Comme ça, il y a de plus en plus de feux. Parce que l'homme déforeste trop.
Bah évidemment qu'il y a,
Sur l'homme, hein.
Le réchauffement.
C'est le plus grand prédateur.
C'est compliqué, hein, de faire partie de cette drôle d'espèce.
Ouais.
Bah évidemment que le réchauffement climatique n'est pas pour rien. Les forêts aujourd'hui sont fragilisées. De toute façon, il suffit de parler à n'importe quel ingénieur de l'ONF aujourd'hui et il vous dira que oui, la forêt, par exemple, notamment en France, hein, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, la forêt va mal, que la sécheresse n'aide pas les arbres,
en plus,
qu'il y a beaucoup de plus en plus de parasites, que au contraire, voilà, les parasites sont favorisés par le réchauffement climatique. Et donc, il y a des arbres, il y a de plus en plus d'arbres malades. Le manque d'entretien aussi, parfois, de la forêt. Le fait que nous-mêmes, parfois, peut-être, on ne sait pas quand quand on possède un bout de forêt, parce que c'est une indivision des choses qui nous viennent de nos grands-parents, et donc c'est dans un coin perdu du massif autour de Craponne, par exemple, hein, on ne le sait pas, et donc ce terrain-là n'est pas entretenu, donc il y a du bois mort. Alors, sous nos latitudes, à Craponne, ça va, hein, mais la même chose dans des terrains un peu inflammables, du bois mort par terre, ça fait des grands feux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là. C'est aussi un peu le fait que nous, on a délaissé notre rapport à la nature, qu'on va moins en forêt, qu'on la connaît moins, donc on l'entretient moins, etc.
Oui, alors ça, c'est tout à fait vrai, hein, parce que alors, quand on va se balader dans les bois, là, y a des arbres qui sont par terre depuis 5-10 ans. Alors certains disent aussi qu'il faut qu'il y en ait qui restent au sol.
C'est toute une question d'équilibre.
Voilà, c'est très compliqué. Voilà, c'est que ça, hein.
Non, mais c'est des questions très compliquées. Pas, ouais. On se rend vraiment compte quand on. Moi, je me documente beaucoup sur la nature quand j'écris mes livres, sur comment ça fonctionne un écosystème, etc. C'est très complexe. J'en touche pas le. Enfin, je veux dire, j'en touche peut-être un dixième, même pas. Hein. Il faut être très humble là-dessus. On se rend pas compte des interactions, etc. Mais effectivement, un arbre mort, c'est un en même temps beaucoup de vie pour plein d'animaux, etc.
Oui.
Mais sous certaines latitudes ou dans certaines conditions, c'est du combustible pour un feu.
Bien
c'est
sûr.
Très compliqué. Mais on se rend compte, je me suis rendu compte par exemple en écrivant ça, il y a eu des très grands incendies il y a 2 ans en Australie qui ont brûlé 6 à 10 millions d'hectares. 6 à 10 millions d'hectares,
oui, c'est fabuleux.
On peut même pas, enfin, je me rends même pas compte de ce que ça fait. Ouais. Quand je dis les incendies en France cette année, au total sur toute la France, c'était 60 000 hectares.
Ouais.
Là, on parle de 10 millions
ouais,
d'hectares.
10 millions.
C'est incommensurable. Et en fait, donc émissions de gaz à effet de serre incroyables. Et en fait, on s'est rendu compte plusieurs mois après que ces gaz à effet de serre ont été absorbés par le plancton et qu'au contraire, ils ont permis à beaucoup de plancton d'éclore. Donc en fait, on pourrait presque dire qu'ils ont eu un effet positif. En fait, la machinerie naturelle est tellement compliquée, elle est tellement... Il y a tellement d'entrées et tellement d'interactions que c'est très très difficile de savoir est-ce qu'une chose est bien ou est-ce qu'une chose est pas bien. Et en fait, peut-être, je m'interroge dans ce livre, hein, est-ce que c'est la manière de se poser la question? Est-ce qu'il faut se poser la question en disant est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, on ne peut pas avoir cette réponse-là.
C'est difficile.
C'est très compliqué d'avoir cette réponse-là. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que moi, je l'explore aussi par la fiction, parce que on peut pas faire un livre définitif et dire voilà, le feu, c'est pas bien, ou le feu, c'est bien, ou c'est normal,
oui, bien sûr,
etc.
Oui.
Mais par contre, les vies humaines, comment les vies humaines se démènent à l'intérieur face à un feu, là, ouais, là, ça, moi, ça m'intéresse, et je pense que ça peut faire réfléchir un peu. Ben, c'est-à-dire qu'en même temps, on raconte une histoire, donc on prend les gens par la main, et c'est intéressant, quoi. Je veux dire, si on a juste envie de lire l'histoire, et en même temps, ça ouvre à la réflexion, quoi.
Oui, puis si on va au bout du bout, c'est quand même le feu qui a permis à l'homme de vivre, parce que ils ont inventé le feu,
exactement,
les premiers, et il y en avait besoin, puisqu'il fallait se chauffer, il fallait puis faire plein de choses. Mais bon, c'est vrai, et puis alors maintenant, bien sûr, qu'il y a.
Mais tout est feu.
C'est-à-dire
que je le dis un moment aussi dans le livre, et c'est je suis très content que vous en parliez, parce que l'être humain est presque constitué par le feu. C'est-à-dire que pour manger, il faut brûler quelque chose. Je suis venu en voiture vous voir, ben j'ai brûlé du pétrole.
Ouais.
Tout est feu. Je veux dire, là, ok, il y a de l'électricité, c'est peut-être du nucléaire, mais tout a été construit grâce à de l'énergie thermique qui est la domestication du feu. L'homme presque est fait de feu. Et se dire qu'on a peur du feu, est-ce que c'est pas quelque part avoir peur de nous-mêmes?
Ah oui, là,
et si ce feu est incontrôlable, est-ce que ça veut pas dire que nous, notre industrie, notre mode de vie est devenu incontrôlable? Enfin, voilà, moi je pense qu'on peut aller très loin dans la réflexion. Voilà, mais le feu, enfin, en tout cas, moi je. Enfin, quand ce sujet est venu me frapper, je pouvais plus me l'enlever de l'esprit, quoi.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là, parce qu'en fait, j'arrivais pas, je ne pensais qu'à ça. Et une fois qu'on a commencé à y penser, on le voit de partout, on voit les flammes, on voit les incendies, et voilà. Pour moi, c'était une prise de conscience, quoi. Et j'aimerais bien que les gens aussi, voilà, le lisent et se disent, ok, voilà. Quel est notre rapport au feu? Quel est notre rapport et par là, quel est notre rapport à la nature, quoi?
Alors ici, bon, ça n'a pas été aussi violent que ça, mais enfin, on a vécu ça il y a...
Ça doit faire les années 70, hein, je crois.
Ouais, 30, 40, j'ai 40 ans, ouais. Ouais, c'était tellement plus, 50 ans. Donc, du côté, tout à côté de Chaumely, hein, où il y avait beaucoup d'hectares de bois qui ont brûlé. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Hein, mais, ouais. Mais là, c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais que finalement, tout le monde disait les trucs, les forêts, les arbres et tout. Mais tout est revenu, et même en mieux presque à certains endroits. Mmh. Et il y a des forêts qui ont repoussé, qui peut-être ne seraient jamais développées. C'est pour ça que c'est un peu contradictoire quand même. Hein.
Complètement, c'est ce que je disais. On ne peut pas s'arrêter à juste une vision. Voilà, c'est pas, on ne peut pas dire le feu, c'est mal ou... En fait, il y a une part de nature dans le feu. Ouais. Et donc, ça existe et c'est comme ça. C'est plutôt comment nous, on réagit par rapport. Ce qui m'intéressait aussi de regarder, c'est... Alors moi, j'étais évidemment pas encore né à ce moment-là, dans ces incendies-là, mais ce qui me trouble beaucoup, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est le paysage. Je veux dire, je suis un amoureux de la Haute-Loire, je suis un amoureux de l'Auvergne, des montagnes, mais aussi des forêts. Il y a des montagnes dans le Cantal où il n'y a plus trop de forêts, mais par chez nous, il y a quand même pas mal de forêts. Ouais. Je m'interroge beaucoup sur combien il serait triste, voilà, de voir ces forêts disparaître et de me dire un paysage, voilà, quand on connaît intimement, quand on regarde par sa fenêtre un bout de colline et qu'il y a un arbre qu'on aime beaucoup ou toute une forêt qu'on aime beaucoup, de se dire que ça peut disparaître. Voilà, moi ça me touche beaucoup et j'ai voulu parler de ça aussi dans mon livre, de dire il faut qu'on cultive cet attachement au paysage, c'est pas que l'environnement, hein, c'est juste à quoi ça ressemble. Et voilà, et un feu qui détruit tout ça, pour moi, c'est horrible, quoi.
Donc aujourd'hui, on reçoit l'invité du jeudi Antonin Sabot pour son livre Le Grand Incendie aux Presses de la Cité. Alors on va faire une petite pause, puis on va revenir avec lui. Alors c'était facile, on met un petit peu d'humour quand même dans cette émission, puisqu'on va écouter Sacha Distel.
En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux de lancer de la grande échelle? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas panique, qui nous les faut. L'incendie là-bas fait rage et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Bien dans cette la grande échelle. Dans la ville, tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier qui s'écria : je viens de la barre du capitaine pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux, mais dans cette la grande échelle, mais on est en panne d'auto, et on cherche la manivelle.
Voilà, aujourd'hui on reçoit Antonin Sabot pour son livre Le Grand Incendie aux Presses de la Cité. Alors, c'est vrai qu'on parlait de. Bah oui, on a connu ça ici, hein, avec Chomley à 50 ans, on disait. Hein, peut-être 60. Non, 50, oui. Quand même, il ne faut pas exagérer. Mais bon, on a vu ce que ça faisait, et encore que c'est. Par rapport aux millions qu'on disait tout à l'heure d'hectares qui ont brûlé en Australie. Alors bon, peut-être le rapport n'est pas le même aussi, parce que l'Australie.
De surface aussi,
oui, et puis ça serait désertique. Bon, ouais.
Et puis, par exemple, la Sibérie, voilà, il y a des
hectares. La Sibérie, par exemple, il y a des millions d'hectares qui brûlent,
voilà.
Mais il y a des centaines de millions d'hectares de forêts.
Voilà,
on est sur des territoires qui sont
ouais.
100 fois grands comme la France, donc c'est pas, donc voilà, c'est pas non plus ça.
Oui, mais enfin, c'est quand même. Les prévisions, ça fait quand même pas rire, hein, parce que si vraiment ça se produit, est-ce qu'on peut inverser le problème?
Ça, c'est difficile à dire. Moi, je ne suis pas scientifique. Hein. Moi, ce à quoi, sur quoi je m'attends, c'est les réactions des gens. Mais moi, ce qui m'intéressait quand même et ce que je voulais dire là-dedans, voilà, c'est... ce problème-là, il existe. Maintenant, on est un être adaptable. L'être humain, il a vécu dans plein de situations, dans plein de conditions, il vit encore dans plein de conditions différentes. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui vit en Californie, quelqu'un qui vit en Sibérie, il vit pas la même chose.
Oui.
Donc ça veut bien dire qu'on sait s'adapter. Maintenant, on sait s'adapter si on sait ce qui va se passer, si on sait qu'est-ce qui peut arriver, et si on cultive un peu cette idée-là. C'est-à-dire que si on s'arc-boute sur nos modes de vie, sur notre confort peut-être aussi, sur la production, on va un peu dans le mur, quoi. Et donc, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'est qu'à un moment, les personnages du livre se retrouvent et se rassemblent. Parce que, voilà, ça poursuit ce que je disais tout à l'heure quand je disais le feu disperse les communautés. Mais à un moment, les gens, il faut bien qu'ils atterrissent quelque part. Et voilà, c'est ces gens-là, ces trois personnages qui sont rejoints chacun par souvent par un autre. Donc au final, ils sont cinq ou six. Ils se rassemblent et ils construisent quelque chose de nouveau. Et voilà, c'était aussi ça, moi, que j'avais envie de montrer. Et même le personnage de Sibérie, on n'en a pas trop parlé, mais quand il part, en fait, il part pour accompagner sa jument. C'est le seul ami,
oui.
Le seul animal qu'il reste de sa dacha, de sa ferme, et il l'accompagne pour ce qu'il croit sera son dernier voyage, parce qu'il pense qu'elle va mourir, parce qu'elle a été brûlée gravement, elle est aveugle, et donc il l'emmène et il parcourt les étendues brûlées, et en fait viennent s'agréger à lui progressivement des animaux, mais donc qui sont les animaux sauvages, en fait, sont les animaux qui étaient dans la forêt, qui eux aussi ont perdu leur habitat, perdent les arbres dans lesquels ils nichaient ou les trous, qui probablement n'ont plus d'autres compagnons, et donc ils tombent sur cette espèce d'arche de Noé, quoi. Il y a une part de fantastique un peu, il y avait déjà un peu ça dans mon premier roman, et ils se rassemblent parce qu'en fait l'idée, c'est de dire, dans une catastrophe, contre qui est-ce qu'on va se battre? Il n'y a personne. Pourquoi on ne va pas continuer à se battre? On ne va pas continuer à élever une espèce contre une autre, une civilisation contre une autre.
Ouais.
Le loup ne va plus continuer à manger les lapins, parce qu'en fait, sinon il va se retrouver tout seul, quoi. Donc évidemment que c'est une métaphore, mais c'est de dire, voilà, quand on aura des grandes catastrophes, il va plutôt falloir se serrer les coudes plutôt que de continuer à se tirer dans les pattes. Et voilà, c'est, pour moi, ça, c'est fondamental, de dire, qui est-ce qu'on va voler si de toute façon tout a été détruit?
Voilà, c'est ça.
Il vaut mieux faire de nouvelles alliances. Alors peut-être avec les bêtes, peut-être que c'est compliqué avec les bêtes, mais entre nous, déjà, voilà, on pourrait déjà commencer à y penser, quoi, à se dire, ok, les temps qui vont venir seront peut-être difficiles. Plutôt que de s'arc-bouter, voilà, comme je disais, sur nos modes de vie, sur nos propres intérêts, peut-être qu'il faut qu'on commence à réfléchir à avec qui on va s'allier pour surmonter ça.
Mais on voit bien, hein, on parle des animaux, on voit bien, là, il y a des reportages sans arrêt sur que ce soit le Brésil, enfin, que ce soit un peu, ça soit l'Afrique, où on essaye de sauver des espèces, parce que toujours pareil, l'homme déforeste, l'homme construit, et ça pousse les animaux un peu dehors.
Bien sûr.
Donc à un moment, ils n'ont plus d'habitat, donc ils ne peuvent plus vivre. Hein. C'est vrai
bien
que
sûr.
Alors, je pense qu'il faut se poser aussi certaines questions, là, parce que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, là. On voit bien, puisque maintenant, à Londres, il y a des renards dans Londres.
Donc, exactement. Mais j'en parle un peu dans, dans le livre. Là, on va pas trop, vendre la mèche, mais voilà, les personnages, on peut le dire, ils se retrouvent à New York, parce qu'il y a un drame qui se, qui se joue, donc je dirais pas lequel.
Non, mais.
Voilà, qui les attire à New York irrépressiblement. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'y aller. Et voilà. Et en fait, ils se rendent compte qu'à New York, à un moment, il y en a un d'entre eux qui se rend compte qu'il y a plein d'animaux. Parce que précisément, voilà, les animaux, toutes les forêts ont brûlé. Et ben, en fait, les animaux, ils font comme les êtres humains. Ils se retrouvent en ville. Mais moi, c'est une question qui me taraude, même ici. Parce que voilà, quand on voit les territoires ruraux qui sont, par exemple, où il n'y a plus de médecins, mais où il y a aussi peut-être de... mais où voilà, peut-être qu'il y a aussi de plus en plus d'agriculture intensive et donc les animaux s'y sentent pas bien, comme on dit. Il y a presque plus de ruches à Paris qu'il y en a peut-être en Haute-Loire, quoi. Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'à Paris il y a pas de pesticides. Ben, c'est pas normal, je veux dire, c'est pas normal. Tant mieux s'il y a des ruches à Paris, je veux dire, mais il faut qu'il y en ait ici aussi. Il faut qu'il y ait des animaux ici. Moi, je veux pas qu'il y ait des renards à Londres, encore une fois, pareil, ça me dérange pas. Mais j'ai envie d'en voir. Moi, j'ai envie d'en voir quand je vais me promener. J'ai envie d'en voir en Haute-Loire, et la nature elle est quand même d'abord ici. Et voilà, et ça me questionne. Et ça questionne les personnages de ce livre qui se disent, mais attendez, est-ce qu'on va abandonner une partie du territoire, par exemple du territoire américain? Est-ce que la Californie, ça va encore être vivable dans 30 ans? Peut-être pas, quoi. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devra retourner à New York, devra retourner plus au nord, ou je ne sais où? Et ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose, quoi. Parce que si on rend nous-mêmes des parties du territoire pas habitables, ça va être trop compliqué, quoi. La suite, ça va être invivable, quoi.
Oui, donc à travers ce roman, hein, Le Grand Incendie, ben, on va voir tous ces personnages qui se retrouvent, en fait, qui ont vécu les mêmes choses, mais pas au même endroit.
C'est ça.
Donc c'est pour ça qu'ils peuvent échanger, déjà.
C'est ça, complètement. Ouais. À un moment, ils se retrouvent et ils ont tous et ils se racontent leurs histoires. Enfin, pourquoi ils sont là. Et en fait, ils se rendent compte que voilà, même s'ils viennent d'horizons complètement différents, c'est une même histoire qui se répète, et c'est l'humanité, finalement. Je veux dire, il y a pas, comme je disais, il y a pas une grande différence entre quelqu'un qui est parent, qui a l'expérience d'avoir des enfants ici ou en Turquie. Ben
oui, c'est pareil.
Normalement, comme il disait Sting, hein, les Russes aiment aussi leurs enfants, quoi. Russians love their children too. Et en fait, voilà, il faut qu'on se raccroche. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à se raccrocher à ça. Et c'est pour ça que j'écris de la fiction aussi, parce que ça, c'est des choses, là on le dit voilà, comme ça, à un micro, etc., ça a la force que ça a, peu importe, mais voilà, le dire dans un roman, pour moi, là, ouais, ça c'est fort, parce que voilà, un roman, il y a toute la fiction qu'on met autour, il y a toute l'histoire qu'on raconte, on embarque les gens. L'idée, c'est d'arriver à embarquer les gens, à leur dire, allez, venez avec moi, je vais vous raconter une histoire. Et en fait, à l'intérieur de cette histoire là je vais vous dire plein de petits trucs. Voilà, moi j'aimerais vraiment ça, que les gens sortent de ce livre en se disant
réfléchir.
Ouais, j'avais pas forcément vu les.
Ouais, il y a des fois où pas. Oui,
voilà. C'est pas non plus. Il faut pas surexagérer le rôle de la fiction. Hein.
Ouais.
On n'est pas des lanceurs d'alerte. Hein. Il y en a d'autres qui font ce métier-là. Enfin, je veux dire, c'est pas le but. Mais quand même, de prendre un peu les gens avec les émotions. Parce que voilà, quelque chose qu'on a ressenti avec son émotion, souvent quand même, c'est fort, quoi. C'est-à-dire que de se dire vraiment, voilà, qu'on a des émotions face à la description d'un feu, eh ben, c'est peut-être plus fort que simplement de l'avoir vu aux infos la semaine dernière. Et j'aimerais vraiment ça, que les gens se disent, ok, je vais me laisser embarquer par ce livre, je vais me laisser embarquer par ces trois personnages qui ont un vécu très fort, qui vivent des choses très fortes, qui se laissent embarquer par ça et qui se disent, ok, on va... peut-être que ça va allumer un feu, peut-être, hein, un petit incendie, une petite étincelle, mais voilà, une étincelle, un feu positif, quoi. Quelque chose qui anime, parce que c'est ça aussi le feu, hein. C'est aussi quelque chose qui nous réchauffe.
Ouais.
Et j'aimerais que ce livre, il réchauffe un peu quand même.
Ah, une expression qui dit tout feu, tout flamme, hein, donc c'est vrai qu'on on est au taquet. Alors bon, il y a sûrement des choses qu'il ne fallait pas faire, parce qu'on voit, quand il y a des incendies, on essaye de protéger les bâtiments, donc parfois il y a des gens qui ont construit un peu n'importe où, hein, faut le dire. Donc ils savent qu'il y a un risque s'il y a un incendie. Après, la baraque, si elle est à 2 mètres d'une forêt, ben voilà. Donc aussi, il faut peut-être se poser des questions. C'est bien beau de vouloir vivre au mieux de la nature, mais il y a... Ou alors, si on vit avec la nature, il faut être très prudent.
Ouais, ouais, l'usage du territoire, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, vous avez raison, c'est notre rapport à la nature, le fait qu'on ne connaisse pas, qu'on ne se rende pas compte qu'une forêt, ça puisse brûler.
Et oui.
Ah si, une forêt, ça peut brûler. Et l'incendie de Paradise, il est symptomatique. C'est vraiment pour ça que je commence par ça dans mon livre.
Ouais.
C'est qu'en fait, il y a un phénomène aux États-Unis qui existe aussi en France, hein, mais peut-être un peu moins fort, mais... de périurbanisation,
voilà.
Hein, et donc les loyers et les maisons étant trop chers en ville, les gens un peu plus pauvres ont été repoussés plus loin, et donc ils se retrouvent au milieu des forêts.
Voilà, c'est ça.
Alors ok, ce sont des villes, mais ce sont des villes qui en fait sont construites au milieu des forêts parce que le terrain était moins cher, la construction était moins chère, etc. Et donc ce sont en fait ces personnes-là qui sont les premières victimes. Et comme souvent, voilà, ce sont les gens qui ont le moins qui perdent le plus, quoi. Et ça, c'est dramatique.
Oui, on voit sans arrêt des reportages où il y a des feux, donc il faut combattre pour essayer de sauver ce qui est sauvable, hein, mais des fois c'est pas possible. Hein.
Ouais.
Donc les maisons elles brûlent et puis voilà, c'est tout, hein, ou d'autres choses qui brûlent. Et puis peut-être aussi il y a des gens parfois, il y a l'inconscience, hein, parce que bon, on a eu cet été, on a vu ce que c'était, il a fait quand même très chaud. Hein. On a eu une période de sécheresse. Bon, ben on comprend bien que celui qui fume, faut pas aller écraser son mégot, parce que ça a vite pris. Hein, quand c'est sec comme ça, hein, l'herbe, ça prend vite.
Mais
hein,
si on regarde
les barbecues, on fait gaffe, on fait pas un barbecue quand il y a du vent. Quoi.
Si
enfin, c'est tous des trucs comme ça que je veux dire. Hein.
Si on regarde les quantités, les surfaces brûlées hein, année après année en France, elles ont en réalité beaucoup diminué. Hein, c'est-à-dire
qu'on
est à une moyenne annuelle de 6 000 hectares.
Ouais.
Hein, donc cet été, c'était 70 000.
Ouais.
C'était 66 000 à peu près. Et la dernière fois où on était aussi haut, c'était en 2003, 70 000 hectares.
Ouais.
Et c'était aussi la canicule.
D'accord.
Et en fait, quand on dit aux journaux, OK, il va y avoir des canicules tous les 3 ou 4 ans, peut-être dans 10 ans, il faut faire les liens. Attention, c'est-à-dire, une canicule, c'est avoir chaud. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire qu'il y a de la forêt qui brûle.
Ouais.
Ça veut dire qu'il va y avoir plus de forêt qui brûle s'il y a plus de canicule.
Bah,
parce que le lien, il est malheureusement assez mécanique. Quoi. Quand il fait très sec, comme vous dites, un mégot, ça peut suffire à brûler 10 000 hectares.
Ah oui, il faut, on voit bien. Hein.
Et voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça que je voulais explorer dans ce livre. C'est l'inconscience. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont perdu le rapport à la nature. Et donc le rapport à la réalité en fait,
ouais.
Parce que je veux dire de dire que voilà, quand on fait des choses qui sont pas réalistes en termes naturels, ça amène souvent à des catastrophes. Et donc voilà, ne pas se rendre compte qu'une étincelle, ça peut déclencher un incendie très grave, c'est bien qu'on a perdu un peu de sens commun, quoi, tout simplement. Hein, je veux dire sans vouloir faire café du commerce ou quoi, mais d'avoir un rapport un peu réaliste au monde qui nous entoure, que de savoir qu'un acte a des conséquences, ben il faut reprendre un peu ce bon sens là, quoi.
Donc en lisant Le Grand Incendie d'Antonin Sabot, vous allez auprès de la cité, vous allez découvrir un peu justement tous ces personnages qui ont vécu la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce livre ? On a bien résumé ou...
Ouais, je pense. Non, moi l'important, voilà, c'est vraiment de se dire que ok, ça peut avoir l'air un peu dramatique comme ça. Hein.
Ouais.
C'est sûr que c'est pas le sujet n'est pas joyeux. Hein, il faut le reconnaître, mais voilà, c'est quand même une espèce... Moi, ce que j'ai voulu, c'est donner un souffle. C'est un peu une épopée. Voilà, on suit ces trois personnages-là qui ont quand même des... C'est aussi des histoires plaisantes à lire. Voilà, avec un peu une épopée, une saga de gens qui
ouais.
vivent voilà, des choses incroyables. Et voilà, enfin, incroyables, malheureusement assez réalistes, hein, de plus en plus réalistes, mais quand même, voilà, très fortes. Et voilà, j'ai envie que les lecteurs se laissent embarquer un peu dans cette histoire. Et qui la suivent jusqu'au bout pour voir comment ça se termine, quoi.
Alors bon, ça c'est le dernier. Est-ce qu'il y en a déjà un sous le coude, le prochain?
Ouais, c'est en train, on y réfléchit, quoi.
Souvent, c'est pour ça que je pose toujours la même question, parce qu'il y en a, ils en ont déjà deux d'avance.
Non, moi je suis pas comme ça. J'aime bien vraiment. J'ai besoin d'être vraiment concentré sur un livre pour.
Et tu sens toujours de la fiction?
Pour l'écrire, ouais. Ouais. Non, mais là, c'est en train de
mourir. Mais totalement différent dans un domaine.
Alors, moi, je pense revenir un peu à nos contrées. Parce que voilà, j'ai envie de parler de la ruralité, ça m'intéresse quand même beaucoup. Maintenant, il y aura peut-être quand même des incendies, quoi. Vraiment, hein, depuis que le feu est venu me voilà, s'est installé en moi, quoi, ça couve, hein. c'est comme sous la cendre, voilà. Ouais. Ça couve, j'ai du mal à
sortir de cette vision.
Ouais. Et donc, je pense que ça se passera dans le coin, mais il y aura des histoires d'incendie parce que c'est vraiment quelque chose de très très fort, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui à la fois nous fait vivre et en même temps nous menace. Donc, c'est de la matière à fiction, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est à la fois bien et pas bien. Il faut écrire des romans, quoi. C'est sûr, c'est obligé. Donc, je vais continuer un peu dans cette veine-là, voilà.
Ok, ben Antonin, merci.
Merci à vous.
Donc je rappelle Le Grand Incendie, Les Presses de la Cité. Donc comme on dit, on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Ouais, voilà. Puis on va essayer de faire des. La dernière fois c'était le Covid, hein, si vous vous souvenez.
Ah oui, c'est mal tombé.
Donc on n'avait pas pu faire de rencontres en librairie. Et donc là, voilà, hein,
je dis aux gens, voilà. En avril, non?
Eh ben, pardon.
Arsac en l'air.
Ouais, voilà, bah ouais, je vous donne rendez-vous carrément.
Sûrement,
hein.
Voilà. Venez, ouais, parce Arsac. Qu'on sait, on retrouve beaucoup d'auteurs là, de la
voilà,
région.
Arsac,
ouais.
Et puis je vais essayer de faire des tournées un peu en librairie.
Oui,
là.
Oui, ça marche bien, ça. C'est.
Et ouais.
Et puis les gens aiment bien rencontrer.
Et puis voilà, moi aussi, hein, j'ai vraiment pas pu le faire pour le premier livre.
Oui.
Donc les gens m'ont peut-être entendu à la radio, mais je suis encore plus sympa en vrai.
Donc ça sera l'occasion de faire les deux à la fois. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ben Antonin, merci, puis on se retrouve pour le prochain. Hein,
merci à vous.
Qui arrivera peut-être l'année prochaine ou fin de l'année, je sais pas.
Oh, moi je prends mon temps.
Oui, je prends son temps. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'il sera bien.
C'est ça. Hein.
On prend son temps, bah oui, hein, on ne peut pas faire tout à toute allure. Ben on va terminer avec Jojo. Hein. Allumer le feu, mais peut-être pas trop quand même.
Tirez le feu, tirez le feu.
Voilà, pour terminer cette émission, donc je vous rappelle qu'aujourd'hui on est avec Antonin Sabot, Le Grand Incendie, aux éditions Les Presses de la Cité, eh bien, à découvrir, hein, bien sûr. Donc je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. L'invité du jeudi, aujourd'hui, c'est terminé.
Shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's Mackie dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mack the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mack he spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown, oh, the lion.